sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui en studio les étudiants Relais Santé, les ERS. Bonjour.
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 Alors peut-être qu'on va pouvoir vous présenter un peu plus. Bonjour Axel.
Bonjour. Alors moi je suis étudiante en droit et je suis également ERS Santé. J'ai pour mission de faire de la prévention auprès des étudiants sur la thématique de santé.
Et alors, est-ce que tu es dans un groupe particulier ?
Oui, je suis plus précisément dans le groupe Bien-être et je ne suis pas la seule. D'ailleurs, dans ce groupe, il y a également Farid qui va se présenter aussi.
Alors moi, je suis tout comme Axel, sauf que moi, je suis en biologie. Donc moi aussi, je fais partie de l'équipe Bien-être, donc ERS, qui est là donc, pour éventuellement prévenir ou pour faire des partages de, comme des trucs, des choses marrantes comme des quiz, des choses comme ça. Et donc moi aussi, donc, comme Axel, je vais pouvoir faire partie de l'équipe Bien-être.
Et alors, nos auditeurs ont déjà eu le plaisir de vous entendre tous les deux, puisque vous êtes déjà venus dans des émissions, il me semble.
Oui, c'est bien ça.
Yes, on avait intervenu, je crois, pour prévenir les étudiants quant aux arnaques alimentaires, ou alors les idées reçues. Donc ouais, j'avais intervenu avec le coordinateur, donc Tony. Et ouais, c'est vrai que c'était une bonne première expérience, et donc bah, je suis là pour une deuxième fois, parce que je dirais que j'avais bien aimé.
De même que Farid, j'avais également apprécié la dernière fois. Et c'était également sur le thème de la santé, mais également sur celle du sport, parce qu'en effet, on présentait aux côtés du SWAPS des petits conseils pour reprendre le sport et également comment s'alimenter en parallèle.
Voilà, donc on est très content évidemment d'avoir des ERS qui viennent régulièrement sur les ondes de Radio Campus Tour pour parler santé, bien-être et toutes ces choses. Alors, en attendant l'arrivée de notre troisième invité, qui ne saurait tarder, puisque nous sommes le 8 mars, chers auditeurs, 8 mars, je vous propose d'écouter Still I Rise de Maya Angelou, voilà, pour célébrer cette journée internationale consacrée aux droits des femmes. Alors, non pas qu'il n'existe pas et qu'il ne faut pas les défendre le reste de l'année, mais enfin, il y a une journée consacrée à ça. Donc écoutons Maya Angelou, on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour.
You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatefulness. But just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, wow, there I go.
Vous écoutez toujours Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Et en ce 8 mars, vous venez d'écouter Maya Angelou and Still I Rise. C'est parfait, car voici qu'arrive en studio notre troisième invité, Ghislaine Legouguec. Je vous laisse le temps de vous installer au micro. Voilà, Et pendant ce temps, je rappelle, chers auditeurs, que toute cette journée, vous allez entendre une playlist particulière. Super Jazz Woman, pardon pour mon excellent accent anglais, voilà, qui ne s'améliore pas au fil des émissions, hélas. Cela étant, vous entendrez des playlists composées uniquement d'artistes féminines, jazz musiciennes, chanteuses, voilà, jazz toute la journée sur Radio Campus Tours. Et ces playlists ont été fabriquées par notre équipe de programmation musicale et notre équipe d'antenne. Donc si vous m'entendez, bravo à vous. Voilà, il me semble, chers invités, que nous allons pouvoir poursuivre cette émission et vous êtes venus nous parler tous les trois du mal-être étudiant, il me semble.
Oui, c'est exact. En effet, on constate qu'il y a en fait le Covid, on en parle beaucoup, mais ça a été du coup remarqué par de nombreux professionnels de santé, dont Ghislaine, qui je pense nous explicitera probablement un peu mieux que nous parce qu'elle a son point de vue de professionnelle, qui en fait montre bien que la situation, forcément, on le sait tous, n'aide pas vraiment les étudiants. Il y a beaucoup de solitude et notamment quand on vit dans un appartement tout petit, que l'on est seul, c'est beaucoup plus compliqué que pour ceux qui ont la chance d'être en famille. Et même quand on est dans sa famille, eh bien, il n'y a plus le rapport social qu'il y avait avant. Parce que l'université, on en parle beaucoup, c'est les cours, bien évidemment, mais il y a également toute la vie étudiante derrière qui est conséquente et importante.
Oui, donc comme disait ma collègue ERS, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, le Covid, d'un point de vue psychologique pour les étudiants. On se rend compte qu'il y a beaucoup de entre guillemets, laisser-aller. On se rend compte qu'il y a beaucoup de déprimes, mais ça peut engendrer beaucoup de galères, comme laisser tomber les études ou d'avoir les idées un peu noires. C'est pour ça que du coup que ma collègue madame Ghislaine, j'ai peur de mal prononcer son nom de famille, le Guidec, va pouvoir continuer ce que je dis, parce que là on va évoquer le fait que pour l'immense majorité des gens, le Covid, c'est pas vraiment le déclencheur du mal-être. Donc je vais laisser Ghislaine poursuivre ce sujet.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je m'appelle Ghislaine Le Gougec. Je travaille en tant que conseillère conjugale et familiale à 80% au sein du service de santé universitaire de Tours. Un tout petit focus rapide sur le métier, puisqu'il n'y a pas le préfixe psy sur le métier que je pratique, mais ça reste un métier de soutien psychologique. Plus peut-être particulièrement autour du champ de la psychothérapie, et en sachant que dans le cadre de la thérapie de couple ou de la famille, nous sommes bien obligés, effectivement, donc à peu près sur 3 ans, on travaille sur des écoles privées en psychologie, sociologie, anthropologie. Donc le terme psy va très bien, et il n'y a pas que du conjugal et que du familial dans ce métier, qui au départ, en fait, excusez la prononciation également de mon anglais, ça vient en fait des pays anglo-saxons et ça s'appelle le counseling. Mais on est vraiment dans cette approche plutôt analytique, non jugeante, non directive. Voilà.
Alors j'allume mon micro et je me permets une question. Puisque nous sommes sur une radio étudiante, peut-être que certains sont intéressés par ces métiers. Donc vous avez expliqué que c'est une formation en 3 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que vous voudriez préciser un peu plus en quoi consistent ces études ? Est-ce qu'il y a des stages ? Comment
oui.
Ça se passe ?
Alors, les études se font déjà normalement pas avant 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir une expérience de vie pour pouvoir intégrer la formation du conseil conjugal et familial. Sauf, je pense, moi j'ai fait ça il y a plus de 20 ans. Je ne sais pas si aujourd'hui, selon le parcours de vie de quelqu'un qui a 25 ans, il y aurait possibilité effectivement qu'il soit quand même reçu dans cette formation. Alors, la formation 5 écoles privées en France, dont l'AFCCC, l'Association française des centres de consultation conjugaux et familiaux, qui est sur le Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, dans le 94, où effectivement, d'ailleurs, même des psychologues ayant terminé leur cursus ont pu venir intégrer ces formations-là, puisque on va être un peu plus... c'est une approche de thérapie centrée sur la personne, et sur cette personne qui vient d'une famille, peu importe qu'elle soit biologique ou pas, qui a vécu par un couple, au moment du désir, quoi qu'il en soit, le couple a toujours existé, même si les personnes ne l'ont pas connu. Et ce couple ESE et de devenir de la personne dans son histoire de couple et dans son cheminement jusqu'à sa vie adulte, quelles sont les interactions familiales, environnementales, sociétales qui ont parcouru, culturelles qui ont parcouru son chemin de vie. Et il y a effectivement des stages que l'on va faire sur cette pratique. Alors c'est beaucoup toute la théorie freudienne. Et aussi mise en pratique en jeu de rôle très rapidement. La théorie est également mise en pratique. Et il y a beaucoup de stages, effectivement, qui jalonnent le parcours sur à peu près environ 3 ans des stages avec, effectivement, des rapports de stage à rendre. Et puis un mémoire de fin de parcours, un mémoire que j'appelle plus professionnel sur 50 pages, sur une problématique, une thématique qui va être soutenue devant un jury. Voilà. Ça vous va? Voilà. Sinon, alors sur ce que viennent de dire les étudiants, moi je tiens déjà à remercier tout le travail qui est fait auprès de ces étudiants Relais Santé, puisque effectivement, les professionnels dans le champ de la santé, c'est peut-être pas toujours facile de venir les voir, peut-être pensant que les professionnels sont des sachants. Ce qui est loin d'être vrai. En tous les cas, on ne peut pas tout savoir. Tout savoir, ça n'existe pas. Et que bien au contraire, le travail avec vous, là, les étudiants Relais Santé, c'est pouvoir aller effectivement auprès de vos pairs. Et puis peut-être que le discours de prévention ou de sécurité, de ce qui peut se passer dans l'histoire, effectivement, aujourd'hui liée à la crise sanitaire, va venir être aidant pour proposer, en tous les cas... le service de santé universitaire, peut-être, pour aller se faire aider. Voilà, donc ça, c'est un travail, je trouve, indispensable que les étudiants nous accompagnent, les professionnels, et que nous, on les accompagne. En fait, ça va dans les deux sens. Alors, pour revenir effectivement sur le mal-être étudiant aujourd'hui, donc on est aujourd'hui, j'ai 3 collègues psychologues, dont une dernière qui vient d'arriver début mars, et qui donc fait des permanences sur le site des Deux Lions, à Portalis. Donc les étudiants ont eu des informations par mail sur... j'ai pas retenu les jours. Mais par exemple, lundi, elle est sur le service de santé universitaire, et le mardi, elle est sur le site de Portalis, et les étudiants peuvent être reçus jusqu'à 18h, prendre un dernier rendez-vous à 18h, donc, puisqu'elle fermera sa consultation à 19h. Donc ça laisse un petit peu plus de temps. Et sinon, au rue du Plat d'Étain, donc les étudiants peuvent venir nous rencontrer individuellement. Donc on a un collègue masculin du côté psycho et une autre collègue, où nos rendez-vous se déroulent en gros sur 30 à 45 minutes. Et en ce moment, on est entre 3 semaines à 1 mois et demi d'attente pour nous. Et sur la personne qui vient d'arriver... Je ne peux pas vous dire, mais bon, je pense qu'il y a des rendez-vous un peu plus proches, peut-être d'ici 15 jours, pour pouvoir être reçus sur la thématique d'un mal-être. Voilà. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, alors effectivement, je pense que c'est le virus qui est arrivé il y a un an, qui a un peu sidéré, effectivement, par la façon dont le gouvernement et la santé publique a pu mettre en place la protection par rapport au virus, a effectivement, dans l'histoire du confinement, dans l'histoire de redéconfiner, dans l'histoire du couvre-feu, a malheureusement, bien sûr, impacté tout le monde, sa vie, mais a aussi impacté particulièrement les étudiants qui se retrouvent coincés devant des écrans d'ordinateur toute la journée. Avec une sensation d'avoir une charge de travail beaucoup plus importante et un rapport humain qui est complètement distancié parce que c'est ce qui est demandé. Mais malheureusement, comme ça fait peur, comme c'est pas toujours très agréable à vivre, la peur va demander aux humains pourtant de se réunir. Parce que si on a peur, on a envie d'aller voir les autres pour se rassurer. Et c'est ça c'est interdit. Et... en plus de ça, je pense que le rapport à l'écran, effectivement intense, alors sans parler des problèmes au niveau des yeux, des migraines, ça c'est pour le côté physiologique, va faire que l'étudiant qui était en amphi avant, qu'est-ce qu'il connaissait ? Il était en amphi, il avait quand même un rapport au prof, il pouvait en parler avec l'étudiant d'à côté, il pouvait la manger ensemble, il pouvait reprendre son vélo, sortir, aller marcher et repartir chez lui. Tandis que là, si c'est sur Zoom ou je ne sais quel autre logiciel, une fois qu'il a terminé ses cours, il ferme peut-être le portable ou l'ordinateur devant lequel il est et il reste assis sur sa chaise. Donc il n'y a pas d'autre interaction, effectivement, avec les autres personnes. Et je pense que ça, c'est ce qui a été très préjudiciable sur le mal-être étudiant, sans compter qu'ils sont des fois dans des petits appartements, loin de leur famille. Et que sur les L1, donc ceux qui ont commencé cette année après le bac, n'ont peut-être même pas encore rencontré les locaux de l'université, c'est quoi. Voilà.
Ouais, donc je rejoins donc ce que dit Ghislaine. C'est vrai que c'est compliqué de qu'il n'y ait pas cette cassure entre le lieu de vie et le lieu de travail. On se réveille, on va à son bureau, on marche un pas pour aller à son bureau, pour aller au travail, sans se préparer. C'est vrai que psychologiquement, on travaille mieux quand on est habillé, qu'on est coiffé, qu'on est, pour les filles ou même pour les garçons, maquillés. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de travailler. C'est vrai que travailler en pyjama, finalement, la motivation n'y est pas, on s'endort beaucoup plus vite. Et le résultat des courses, on voit une énorme charge de travail et la motivation n'y est pas, donc ça peut engendrer des comportements où on n'a pas envie de travailler du tout. On laisse tomber les études et on se retrouve à déprimer et avec la charge de travail qui s'accumule et pour la plupart qui vont rater leur semestre ou autre.
Oui, je suis complètement d'accord avec Farid. Moi, ce qui ressort, bon là c'est plutôt du personnel du coup, mais dans ma promo, du moins les gens que je fréquente dans ma promo, c'est que beaucoup se plaignent de la solitude parce que même si on communique par rapport aux réseaux sociaux, on se rend compte que les réseaux sociaux en fait c'est pas suffisant. On a vraiment la nécessité du contact humain parce que mine de rien, avoir quelqu'un en face de soi, par exemple là je suis en radio du coup avec mes collègues et etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ça fait longtemps qu'on voit pas des visages en vrai parce que même si on voit nos professeurs par Teams ou Zoom, c'est pas du tout pareil.
Ouais, finalement les réseaux sociaux c'est juste un écran de plus en fait à la fin. C'est ce qu'on va retenir.
Mais en plus, dans le fait de ne pas avoir de gens en vivant devant soi, il y a toute une partie de la communication, enfin je pense, qui se perd dans l'expression du visage. Et je pense même pour les... Comment dire? Aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants, le fait de ne pas faire de cours avec des gens vivants, là, après, peut-être qu'un professeur, il ne sait pas si les étudiants n'écoutent pas, ne comprennent pas, parce qu'il ne les voit pas, en fait. Donc... peut-être que c'est plus difficile de se rendre compte de certaines choses. Et puis, après, moi, je m'interroge parce que vous dites tous les deux qu'il y a une surcharge de travail, mais est-ce qu'elle est réelle parce qu'il y a eu trop de choses à faire ou est-ce que c'est aussi un ressenti parce qu'on est tout seul, qu'on ne peut pas travailler en groupe, parce qu'on ne peut pas demander d'explication à la fin du cours, ou est-ce que c'est les deux?
Après, je pense qu'on ne peut pas être unanime sur la question. Mais donc, c'est plutôt personnel, encore une fois, la réponse. Moi, je dirais que la charge de travail est la même, mais que le fait... En fait, quand il y a une interaction avec le professeur, eh bien, en fait, le professeur n'explique pas toujours pareil. Il y a des petits détails, etc., ou peut-être qu'il peut se permettre de faire des schémas. En fait, il lit sur le visage de ses élèves si on comprend ou pas. Moi, je sais qu'au début, quand on a commencé les visioconférences, beaucoup de professeurs nous demandaient d'allumer les caméras pour voir les réactions des élèves, pour voir si on comprenait pas, pour adapter leur cours.
C'est vrai que là, du coup, ça fait beaucoup plus robotique. Le prof fait son cours, l'élève est derrière son écran, et souvent, c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que l'élève derrière son écran sera plus timide que l'élève en amphi. C'est vrai que l'élève va moins oser, donc poser une question, donc finalement, le cours va se dérouler, et il y aura beaucoup d'incompréhensions qui ne seront pas résolues, du coup, à cause de cette timidité qui peut être engendrée par les logiciels.
Ah, c'est intéressant ça, de dire, tiens, il y a des étudiants qui vont être peut-être gênés, plus gênés en tout cas, parce qu'on est en visio, donc on est vraiment scruté par la caméra en pleine face. Alors que pourtant, peut-être d'autres se diraient, moi, je pose plus facilement des questions, justement parce qu'il n'y a pas les autres autour. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être les deux fonctionnements, ou 3 ou 10 d'ailleurs.
C'est vrai que c'est assez rigolo parce que, ouais, après, pour mon expérience à moi, j'ai l'impression, Axel me confirmera de son côté à elle. Pour mon expérience à moi, j'ai l'impression que les gens sont plus timides d'ouvrir leur micro, d'ouvrir leur caméra, parce que à tout moment, il y a papa-maman qui peut rentrer dans la chambre et dire « Viens faire ça, nanana. » Donc voilà, donc forcément, les gens sont beaucoup plus timides d'ouvrir leur micro. Et pareil pour les caméras, il y a des gens qui vont être complexés par leur visage, donc forcément, quand ils vont voir leur rendu caméra, ils se diront « Ah non, mais j'ai pas envie de me voir et tout, etc. etc. » Donc résultat des courses, micro fermé, caméra fermée, et le cours se déroule et finalement il n'y a pas trop d'interaction, même voire pas du tout pour certains cours.
Oui, je suis complètement d'accord avec Farid. C'est à double tranchant. Il y en a certains qui vont oser écrire. C'est vrai que, par exemple, moi, sur le Phil Teams, j'ai vu plus de noms que je connaissais pas qu'avant. Disons qu'il y en a qui osent, mais ils sont minoritaires, mine de rien. Parce qu'après, quand les professeurs demandent d'allumer la caméra, des fois, ça finit en... C'est pas un combat, mais disons qu'ils sont obligés d'insister parce qu'il y en a beaucoup qui ont honte ou tout simplement peut-être parce qu'ils se sentent tellement seuls qu'ils prennent plus trop soin d'eux. Et qui osent plus, tout simplement par timidité, ça aide pas.
Alors, je crois qu'il y a aussi le fait que là, il n'y a pas une interaction humaine. Voilà, il n'y a pas d'interaction qui va amener l'autre à, dans sa communication, dans, adapter sa communication. Et que quand on est en réunion, là, de visu, on peut regarder, nos yeux vont aller se porter sur les images de la salle, vont aller se porter sur ce qu'il y a d'écrit, vont aller regarder par la fenêtre. On n'est pas tout le temps centré, vraiment les yeux fixés sur, comme un tunnel. Hein. On regarde juste, pas ce qui se passe autour, mais ce qui se passe devant soi. Et je pense qu'il y a vraiment, alors, bien sûr, la fatigue oculaire, mais psychiquement, ça ne renvoie effectivement pas la même chose, puisqu'on n'est pas dans cette interaction. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les étudiants, dans ce qu'on reçoit dans nos consultations, sauf cas exceptionnels, bien sûr. Nous recevons des gens qui ont des troubles anxieux et des phobies scolaires qui peuvent les amener à trouver que le confinement, c'est mieux de rester chez soi, mais ça reste à la marge. C'est vraiment à la marge. C'est déjà des gens qui avaient des fragilités psychiques hein, et ça leur posait beaucoup de problèmes, justement, d'être dans l'interaction avec l'autre.
Mais alors, ça va être très difficile, enfin, difficile en tout cas pour ces personnes-là. Quand enfin on va pouvoir, espérons-le, revenir en cours, en présentiel, autant que faire ça difficile pour ces personnes.
Ah bah c'est sûr. Ça a bien été la problématique. Bon, moi, ce n'est pas mon domaine, mais je me souviens que ça a été parlé, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, comme l'autisme, où, par exemple, eux, ils n'ont pas voulu porter le masque parce que c'était compliqué pour eux. Voilà, ils ne peuvent pas mettre quelque chose. Et que, je vous dis, on est dans une contradiction incroyable depuis un an. On doit ne pas trop se rapprocher pour ne pas attraper un virus, mais l'être humain est un être social, grégaire, qui a besoin justement de pouvoir être au contact de l'autre. Et chez les autistes, justement, enfin sur certaines personnes autistes, il y a besoin de travailler continuellement ce rapport à l'autre. Donc si pendant un an, tout d'un coup, il n'y a plus rien, oui, c'est compliqué pour les parents ou les gens, voilà, qui sont ces personnes-là. Mais bon... Après, effectivement, pour les personnes, je vous dis, qui ont un terrain anxieux et troublé, fragilité pour aller dans les cours, eh ben, il va falloir effectivement les réaccompagner là, du côté de leur fragilité pour leur permettre de reprendre le contact. Parce qu'en même temps, ce n'est pas ceux qu'on voit le plus en consultation. C'est justement plutôt les gens en consultation qui n'ont plus d'interaction, ou qui n'ont pas vraiment connu les étudiants parce qu'ils arrivent de terminale. Donc c'est plutôt avec eux. Voilà, c'est plutôt avec eux qu'on travaille. C'est la majorité.
Donc ouais, on a abordé ce sujet-là, mais ce qui est malheureux, c'est qu'on a énormément de sujets à aborder tellement la situation est vaste. Donc c'est vrai que là, on a tendance à vouloir, du moins, c'est ce que va ressentir mon entourage étudiant. On a l'impression que l'étudiant, finalement, il va se retrouver mutilé de sa vie étudiante. On se rend compte que, finalement, que la partie étudiante, c'est pas que les études, c'est aussi ce qui va à côté. Donc, c'est l'interaction sociale, c'est les amis qu'on va se faire, des histoires qui sont plus que de l'amitié. On va retrouver aussi les sorties, on va retrouver beaucoup de choses. Et on se rend compte que maintenant, on retrouve un schéma de la vie étudiante qui n'est pas vraiment la vie étudiante comme on l'imagine. Surtout qu'on voit le cliché dans les films où la vie étudiante, c'est les soirées, c'est la fête. Ben, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas du coup aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Et du coup, les étudiants se retrouvent à étudier. Et Dieu sait à quel point le cercle... C'est un... Comment employer le bon terme ? Cette spirale... Et que ce soit du bon ou du mauvais, c'est nocif pour l'être humain de répéter une chose tous les jours. Et on se rend compte du coup que l'étudiant n'a plus envie de travailler à force de travailler justement.
Oui, il y a un sentiment de démotivation générale. Et en fait, ce sentiment de démotivation générale qui touche toutes les filières et tout âge, parce qu'on se rend compte, on a tendance à se focaliser sur l'année dans laquelle on est et c'est normal. Mais avec un point de vue plus global, parce qu'avec mon collègue, on a eu l'occasion d'échanger, etc., avec certains par mail ou quoi sur nos réseaux sociaux, dont on vous fera la promo un peu plus tard, eh bien, c'est tout simplement que ce soit les étudiants de L1 ou même ceux de L3 qui s'apprêtent à continuer les études ou pas, eh bien, certains se demandent en réalité pourquoi ils font des études, etc. Il y a vraiment un sentiment d'incertitude générale face au monde professionnel, etc. Parce que il y en a beaucoup qui souhaitent faire des stages parce que c'est demandé, c'est préconisé. Mais avec la crise sanitaire actuelle, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un stage et de se forger une dynamique professionnelle et d'avoir une expérience sur le domaine que l'on souhaite appréhender plus tard. Du coup, c'est plus compliqué de se projeter dans l'avenir.
Oui, ce dont on parle, en fait, c'est l'ancrage dans le réel. On n'est pas dans le réel, là. On est un peu tout le temps dans le virtuel, et c'est ce qui manque beaucoup, et particulièrement chez les étudiants, effectivement, qui arrivent de terminale, où on sait que l'université, elle est là pour aider l'étudiant à devenir autonome. C'est un statut particulier d'être étudiant, parce que on a envie d'être indépendant, mais on est peut-être encore dépendant financièrement de ses parents, mais en même temps on devient autonome. C'est plus la terminale où le prof peut s'occuper d'un élève en individuel, hein. C'est donc il y a toute une histoire avec l'ancrage du réel et le cheminement effectivement dans sa vie, parce que c'est un moment de transition, le moment des études, c'est un moment de fragilité, de rupture avec ce qui s'était passé avant, dans le monde, on va dire, de la grande adolescence. Et puis, du coup, le départ aussi, hein, avec le monde de la famille, quelquefois, pas toujours, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi qui arrivent, par exemple, de l'étranger. On a aussi des étudiants internationaux. Et les étudiants internationaux, très souvent, en plus, ils ont une très grosse pression de la réussite à tout prix. Ils sont venus là pour ça et ils doivent rentrer dans leur pays avec cette réussite, dans des conditions aujourd'hui extrêmement difficiles pour eux, financières comme affectives. Donc, là, c'est pas simple. Et c'est cet ancrage au réel, je pense, qui est vraiment important de pouvoir effectivement repartir sur cette idée de construire avec ce qui se passe aujourd'hui, de créer, d'inventer quelque chose. Alors, peut-être mettre une petite note positive maintenant.
On peut supposer aussi qu'il y a des projets professionnels ou des parcours d'études qui vont se modifier ou se réinventer parce que tous les jeunes gens, par exemple, qui ambitionnaient de travailler dans le tourisme, ou enfin, je pense au tourisme, mais il y a sûrement en communication ou dans toutes ces choses-là, évidemment, il va falloir changer les choses. Et peut-être que le fait d'avoir développé des enseignements à distance, numériques, évidemment que ce n'est pas satisfaisant en l'état actuel des choses. Au demeurant, peut-être que ça permet de croiser des enseignements avec d'autres universités, peut-être que ça va aussi permettre de faire des choses différemment. J'essaie de trouver des choses, des notes d'espoir, mais.
Non, mais c'est sûr que ça va être différent, bien sûr. Après, moi, je pense que peut-être, on peut se poser la question plutôt, je ne sais pas, vous allez me dire, vous, là, les deux étudiants qui sont
Il
avec
n'y a pas
moi.
de
Moi, je
problème.
pense que justement, le rapport à l'ordinateur et au virtuel a justement changé dans l'autre sens. C'est que moi, j'entends plutôt que, bon, être que dans le virtuel, c'est bon, il y en a marre. C'est quand même bien maintenant de se rencontrer en réel, de pouvoir positionner des projets ensemble. Peut-être qu'avant, on ne se rendait pas compte qu'on était peut-être trop sur les écrans des fois, quelquefois, et qu'aujourd'hui, on est en train de se dire, il y a peut-être moyen quand même qu'on réinvente un autre moyen de communication. Peut-être qu'effectivement, je crois que la jeunesse est dans cette pulsion de vie qui va pouvoir leur permettre de porter des projets d'avenir et de porter des projets d'avenir positifs, hein, effectivement, réinventer. Voilà, peut-être, voilà, je ne sais pas, dans les gens qui se lancent sur les habitats participatifs, sur l'agriculture, enfin, je pense qu'il y a effectivement tout un débat sociétal où les étudiants, j'allais dire, bah super, que vous allez inventer un nouveau monde.
Eh bien, nous, pour l'instant, le nouveau monde, on espère, qui sait, ce serait toujours quelque chose de mieux que la situation actuelle. Mais malgré que la situation soit sombre et déprimante pour beaucoup d'entre nous, eh bien, faut pas désespérer parce qu'il y a des petites idées. Alors, bon, certains veulent devenir bah, ingénieurs ou travailler dans d'autres domaines, mais ça ne signifie pas que parce qu'on est littéraire, on n'est pas inventif. En effet, il y a beaucoup d'initiatives étudiantes. Alors, pour les L1, là, je m'adresse plutôt aux L1, L2, enfin, ceux en licence parce que c'est les plus jeunes, entre guillemets. Mais il y a beaucoup d'initiatives faites par vos aînés de 2 ou 3 ans ou qui même sont en L2, L3, voire master, et qui en fait tendent à préserver un lien social. Alors toujours par le numérique et dans le respect des gestes barrières, mais pas que. Il y a plein de projets dont ça s'anime au campus, etc., qu'on vous détaillera plus tard, un peu plus tard. Oui, je vous tease un peu, hein, désolée, mais... On fait comme on peut. Et du coup, en fait, on voulait surtout insister, et je pense que Ghislaine sera d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais on est inventif. Et en fait, la ressource, elle est en nous. On est tous intelligents, on est tous arrivés à la fac. Il n'y a pas... Même si on n'est pas le premier de sa promo, ça ne change rien. On a tous des capacités et quelque chose à apporter. Et dans ce genre de situation, on a tous quelque chose qui peut nous aider à aller mieux et aider les autres aussi à aller mieux. Parce qu'en fait, en aidant les autres, on peut que s'aider soi-même aussi. Notamment sur le plan émotionnel et relationnel.
Oui, de manière générale, vraiment, rassurez-vous, c'est normal de douter. Ça arrivait, même, ça existait même avant le Covid. Ça existe même pour ceux qui ont réussi leur vie. Donc là, évidemment, ça a accentué, mais c'est normal de douter. On ne sait pas trop ce qu'on va faire plus tard. Même vous voyez des gens qui ont des parcours tout tracés. Non, il n'y a aucun parcours qui est tout tracé. Il y a toujours le doute qui s'installe de temps en temps. Et là, du coup, comme je disais, donc c'est accentué avec le Covid. C'est normal que du jour au lendemain, vous vouliez tout plaquer pour partir en Australie, pour élever des chèvres, ou je ne sais quel projet un peu sordide. Mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Même si vous êtes amené à redoubler, c'est pas un échec du tout. Du tout. Non, c'est des fois carrément un une chance. Ça permet de vous recentrer donc pour savoir ce que vous voulez faire réellement. Donc, désespérez pas du tout. Vraiment, c'est, vous êtes jeune, vous avez entre 18, même des fois 17, entre 17 et 25 ans. Vous avez toute la vie devant vous pour pouvoir faire ce que vous voulez réellement. Donc, il n'y a pas à désespérer. Vraiment, le doute, c'est normal qu'il soit là. Après, le but, c'est de chasser ce doute et de se lancer dans une chose qui nous plaît. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas agir contre la peur. Pas contre la peur, mais il ne faut pas agir par précipitation et faire une chose que finalement, on va regretter. C'est normal de douter et il n'y a pas à avoir peur là-dessus.
Et c'est de ça dont parlent les consultations. Quand on vient en consultation de soutien, effectivement psychologique, le psycho ou le thérapeute n'est pas un magicien. Mais par contre, il va pouvoir écouter, entendre, reconnaître cette parole dans le doute, dans la peur, dans les troubles anxieux, qui va peut-être pouvoir dire à l'autre, là je suis reconnu là, j'accueille effectivement ce qui se passe en moi, peut-être dans mes peurs, et en même temps, voilà, trouver des réponses qui vont ajuster, qui vont aider, qui vont pouvoir l'accompagner pour en tous les cas créer quelque chose de positif. En fait, c'est casser un peu l'image négative par quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment... Et puis je pense aussi que voilà, l'avenir, effectivement, a toujours été fait d'incertitudes parce que, on est sans savoir où on va à un moment donné puisqu'on sait qu'on meurt et la mort. Alors après, tout un débat là-dessus. Et peut-être... que la crise sanitaire a rappelé tout d'un coup beaucoup plus fortement que la mort, ça faisait partie de la vie, qu'on la pensait peut-être pas si jeune, qu'on la pensait peut-être pas du tout forcément au quotidien, et que peut-être voilà, la façon dont ça a été médiatisé a amené beaucoup d'angoisse sur l'idée de la mort et sur effectivement le devenir adulte, mais qui se posait effectivement avant. Nous, ce qu'on peut juste remarquer, en tous les cas, sur l'université de Tours, c'est quand vous parlez effectivement de l'incertitude et du doute, ce sont des moments qui ont toujours été parlés, pensés par les étudiants, pour savoir s'ils sont bien là dans cette filière, si c'est bien là où ils veulent aller, mais que peut-être, et très certainement même, la crise sanitaire a permis de se recentrer beaucoup plus sur soi, et peut-être a exacerbé, a amplifié effectivement déjà des moments qui... pouvaient être difficiles, des fragilités déjà psychiques qu'il y avait, qui se sont voilà, exacerbées depuis la crise sanitaire.
Il y a également donc des initiatives étudiantes que je vous ai déjà, entre guillemets, présentées tout à l'heure. Bah, du coup, on va un peu plus détailler par des exemples. Mais par exemple, le premier exemple que j'ai, c'est le Discord de Polytech. Donc, on a une de nos collègues qui avait déjà parlé sur les ondes pour présenter initialement ce qu'étaient les ERS. Et donc, elle est de Polytech et elle nous a expliqué que donc il y a un Discord qui a été fait en février pour présenter en fait les différentes filières proposées aux gens qui se trouvaient à Polytech, mais présentées pas par des professeurs, mais par des étudiants eux-mêmes. C'est une sorte de comment ? De porte ouverte, réaménagée. Donc on avait vraiment le point de vue de quelqu'un qui était dans la filière, etc. Et c'est vrai que je pense que ça peut peut-être même plus parler parce que c'est un vécu plus plus récent. Il n'y a pas l'aspect... Quand ça vient pas, en fait, d'un professeur, c'est moins institutionnel et ça peut peut-être parler plus aux étudiants.
Non, c'est vrai que je suis d'accord, il y a moins de crainte à s'exprimer à son, entre guillemets, semblable. On a moins peur de poser des questions parce qu'on se dit que la personne en face, bah, elle a été comme nous. Bah, c'est vrai pour le professeur aussi, mais c'est vrai que le professeur, ça se ressent moins parce que lui, il est, entre guillemets, confirmé, alors que l'étudiant, bah, il est à peu près au même stade que nous. Donc c'est vrai que n'hésitez pas, il y a beaucoup de Discord, comme disait mon collègue Axel. Il y a beaucoup aussi de, pour ma fac, il y a beaucoup aussi de réunions qui vont présenter les masters. Donc n'hésitez pas à participer. Des réunions qui vont se faire malheureusement en distanciel. Je sais qu'on aurait préféré le présentiel, mais malheureusement, c'est compliqué. Donc ouais, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Au-delà des codes promo que va proposer la célèbre application qui va prévoir la nourriture à domicile, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Il y a énormément de promotions, de bons plans, comme qui dirait. Donc n'hésitez pas sur Internet, marquez bons plans étudiants tour, des choses comme ça. Je sais que le site de la métropole va regrouper énormément de bonnes choses qui se font autour du confinement. Donc comme Axel pourra me guider parce que j'ai oublié exactement ce qu'il faisait.
T'inquiète.
Qu'est-ce qu'il propose déjà la métropole ?
Alors, on a déjà des relais. Alors, on a toutes les informations qui concernent les initiatives locales quand il s'agit de la Croix-Rouge et des vêtements, etc. Ça, on ne peut pas pour l'instant trop développer parce qu'il y a en effet des projets qui, ici même à la radio, vont peut-être se faire. Et il y a également, on en parle sur nos réseaux sociaux. Il y a déjà donc deux ou trois postes qui concernent cette thématique-là, donc je vous renverrai plus particulièrement vers ces postes-là. Il y a également donc toute la thématique alimentaire. Donc en fait, il y a toutes les associations qui sont répertoriées et détaillées sur ce site-là. Donc vraiment, le site de la métropole est le site le plus complet que vous pouvez trouver. Mais il y a également, donc, pour lutter contre l'isolement, parce que là, on vous donne plus des ressources pour le domaine alimentaire, le domaine vestimentaire et autres. Mais en ce qui concerne les initiatives étudiantes, c'est surtout « Ça bouge au campus ». Donc ça, c'est la page c'est une page de la fac. Donc vous avez juste à taper « Ça bouge au campus ». Normalement, vous recevez également des mails dans votre boîte mail qui sont intitulés comme ça. Et en fait, c'est des rendez-vous que vous pouvez prendre pour rencontrer justement d'autres étudiants, etc. À raison de 2 heures par semaine et de 2 heures le week-end aussi, il me semble. Et du coup, en fait, vous pouvez rencontrer donc des gens pour discuter. Et ça se fait sur réservation et c'est limité à 9 personnes maximum vu la situation sanitaire.
Je crois qu'il faut saluer cette initiative étudiante. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette création. Comment les étudiants ont pu, par solidarité, parce qu'eux, ils savaient ce qui se passait vraiment auprès d'autres étudiants. C'est vraiment saluer ces initiatives de solidarité, d'encouragement et justement de toujours repartir et ne plus être dans le virtuel, être de nouveau ancré dans ce réel, avec pouvoir parler avec les autres. Moi, je viens de recevoir juste quelqu'un qui vient de participer sur 2 samedis hein, à cette... C'est la première, j'ai eu qu'une étudiante pour l'instant, on en a parlé, mais c'est récent. Elle est ravie. Hein. Quelqu'un qui est très seul et qui est très content de pouvoir aller rencontrer d'autres étudiants qu'elle ne connaît pas.
Et pour cette l'accessibilité, excusez-moi de mon bégaiement, l'initiative Ça bouge au campus, eh bien, faut savoir que c'est sur différents points de la ville de Tours, c'est pas centralisé. Donc si vous êtes par exemple à Grammont, parce que je sais qu'il y a des postes qui sont plus isolés que d'autres, eh bien, sachez qu'il y a également des permanences chez vous, il y en a partout. Donc il faut se renseigner et tout est indiqué sur la page.
J'en profite pour ajouter qu'en tant que radio associative, étudiante, on serait très content d'accueillir des étudiants qui ont envie de découvrir la radio, donc que ce soit dans des émissions bénévoles ou dans l'une des quotidiennes, si c'est possible. Alors évidemment, attention, on est limité à 4 personnes dans le studio, mais si des auditeurs ont envie de venir voir la radio, c'est possible. Donc nous sommes au de Lyon et il ne faut pas hésiter à venir nous voir.
Donc voilà, vous avez bien compris que les initiatives qui sont mises en place pour aider les étudiants ne sera pas une solution à tous vos problèmes. C'est des choses qui sont là pour épauler, pour être entre guillemets une sorte d'épaule, voilà, comme je viens de dire à l'instant, une sorte d'épaule, des choses qui vont redonner le sourire. Donc des choses toutes bêtes comme des vêtements ou de la nourriture, donc, qui n'est pas toujours tout bête justement. Des choses comme des vêtements, de la nourriture, des projets pour lutter contre la solitude, même si on sait qu'on pourra pas la lutter, on pourra pas se battre et la supprimer définitivement, mais c'est des choses qui voilà donc qui peuvent retourner le sourire à des étudiants. On sait bien que ce ne sera pas une solution sur le long terme, mais c'est quand même cool quand même de se voir qu'on est tous dans la même situation et qu'il y a des étudiants qui sont là aussi pour nous aider.
Oui, comme l'a dit Farid, justement, en fait, on ne voulait pas faire un discours édulcoré, on voulait être honnête parce qu'on est bien conscient que la situation, nous aussi, on est touchés. Hein, je ne pense pas me tromper là-dessus.
Non.
Mais comment, en fait, c'est vrai que le psychologue ou même Ghislaine, je pense, en conviendra, ils sont là pour nous aider. Mais en fait, les clés, c'est nous. Vous êtes là pour nous aider. Et en réalité, donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a de plus en plus d'étudiants qui se mobilisent. Donc, la solution, comme je disais tout à l'heure, et comme le Farid le disait, et comme Ghislaine le disait aussi, quand on dit que la solution est en nous-mêmes, c'est qu'on est inventif et qu'on trouvera toujours un moyen de garder le lien social. Et la faculté, par le biais de Ça bouge au campus, nous permet de le réaliser à minimum. Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question, Ghislaine. En ce qui concerne les consultations, elles sont en présentiel, il me semble, non?
Ah oui, alors toutes les consultations sont en réel. C'est-à-dire qu'on reçoit bien les étudiants dans nos bureaux. Donc ça, c'est plutôt bien et ça leur permet de penser. Et effectivement, c'est l'effet miroir qui va permettre de trouver la solution. Mais la solution, ce n'est pas l'autre qui l'amène, mais il la permet. Il permet qu'elle puisse être pensée grâce à cet effet rebond. Quand on a un doute, par exemple, sur soi, qu'est-ce qui fait le doute et comment on peut aller aider l'étudiant à penser ce qui est arrivé à un moment donné dans cette histoire de doute. Alors, on doute tous, hein. Heureusement, ça fait partie de la vie de douter. Mais quand ça devient un peu pathologique ou un peu trop prégnant, un peu trop envahissant, c'est bien de pouvoir le parler, effectivement, et d'avoir un rebond avec le thérapeute ou le psychologue. En tous les cas, je crois qu'il faut croire, c'est ça, son potentiel. C'est-à-dire qu'il y a un champ possible d'ouverture en soi qu'il va falloir aller chercher, trouver, effectivement. Ces moments d'accompagnement, ces petits moments que les étudiants proposent dans S'anime ou Ça se bouge au campus, ça permet de temps en temps, effectivement, de se dire, bon, je suis un humain et je ne suis pas tout seul. Je vais pouvoir, effectivement, avancer avec ça et cheminer tranquillement.
Et sur cette thématique-là, d'ailleurs, avec les ERS, on a un projet, donc on l'a déjà fait et ça s'est très bien déroulé. C'est un quiz pour faire gagner des éléments
super, ça.
De cuisine, etc. Parce qu'on sait que ce n'est pas à la portée toutes les bourses et on veut permettre aux étudiants cela. Donc alors, on va préciser un truc, c'est que, en effet, c'est pour faire gagner des ustensiles de cuisine. Donc des machines à café, un micro-ondes, etc. Mais ça ne porte pas que sur le thème de la cuisine, ça porte vraiment sur tout le thème. Il y a des jeux vidéo, il y a des mangas, il y a de la littérature, il y a des mathématiques aussi, hein. Et il y a de l'histoire.
Vraiment, entraînez-vous, c'est pas facile. Non, je rigole. Non, mais c'est cool parce que du coup, ça nous permet de nous changer les idées. En plus, il y a du monde. La dernière fois, Axel, rappelle-moi, je crois qu'il y avait...
160, je crois. Ouais, 170.
Donc, ça vous permet de voir du monde, mais... Ah non, ça se fait en présentiel la prochaine fois.
Et en plus, c'est en présentiel par rapport à la dernière fois.
Ouais, donc il y a un amphithéâtre qui va être
Il y en a plusieurs qui vont être disponibles, que vous allez pouvoir réserver. Donc, un mail va vous être envoyé courant de cette semaine. Et ça aura lieu en présentiel le 18 mars. Donc, n'hésitez pas à réserver.
Ouais, non, franchement, allez-y. Franchement, c'est une bonne initiative. C'est pas parce que je fais la promotion de mon truc, mais même moi, j'y serais allé en tant qu'étudiant. Franchement, c'est cool. En plus, il n'y a rien à perdre, techniquement. Oui. C'est du bon temps. C'est pourquoi pas un lot si vous savez répondre à nos questions. En plus, vous verrez des nouvelles têtes, vous verrez une animation. Non, franchement, allez-y, je pense que ça sera vraiment cool. La dernière fois, il y avait du monde, ça a super été. Donc là, c'est encore mieux, c'est un présentiel. Donc, proposez pas trop de questions, franchement, allez-y. Allez-y, allez-y.
Voilà, et puisque moi, les gens qui ne doutent jamais me font plus peur que les gens qui doutent, je vous propose de faire une pause musicale et d'écouter justement Les gens qui doutent de Anne Sylvestre. Vous écoutez toujours La Méridienne et nous sommes avec deux étudiants Relais Santé et Ghislaine Le Gouguec. Allez, Anne Sylvestre sur nos ondes.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Anne Sylvestre sur Radio Campus Tours dans la Méridienne, les gens qui doutent, vive les gens qui doutent. Et Farid, étudiant relais santé, avait une question pour Madame Le Gouguec.
Ouais, donc, du coup, j'avais une question pour vous, du coup, Ghislaine. C'est vrai que le monde de la thérapie, ça fait un peu peur. On ne sait pas. Quand est-ce qu'il faut y aller? C'est vrai que ça a une mauvaise connotation à cause des films, à cause des choses comme ça. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut y aller réellement chez un thérapeute. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce monde qui finalement est un monde qui ne devrait pas être tabou parce que ça fait partie de la vie de tous les jours? À quel moment on doit être amené à consulter un thérapeute, etc. Est-ce que vous pourrez répondre à cette question?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on se déplace pour aller voir un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un écoutant, quelqu'un qui va venir effectivement pouvoir répondre, avoir une intercommunication avec l'autre, c'est ne pas se dire qu'on est fou, ne pas se dire que l'autre va tout savoir. Dans les cas, ça va nous permettre un éclairage, un guidage dans ce qui peut être flou en nous, dans quelque chose qui vient trop nous envahir, dans quelque chose qui vient nous faire trop de pression, dans un symptôme qui vient de se passer, un symptôme qui va se mettre en place dans des troubles anxieux parce qu'on vient de déménager, parce qu'on ne voit plus ses parents, parce qu'on vient de perdre un proche, parce que, je ne sais pas, on est enceinte, on est étudiante, et qu'est-ce qu'on en fait? Comment je pense la grossesse? Est-ce que je la pense du côté je poursuis même avec les études ou je ne poursuis pas? C'est ces aides à la décision qui vont permettre de se penser effectivement tout haut. Et donc bien se rappeler que c'est bien la communication avec l'autre qui va nous permettre de se penser P-A-N et de se penser P-E-N. C'est important de pouvoir effectivement être avec l'autre. Et peut-être que je peux ajouter, puisqu'on en a parlé un petit peu entre nous, que les garçons ont peut-être moins tendance à venir dans nos consultations de soutien psychologique. Et je crois qu'en fait, au même titre que les filles, il y a besoin d'aller se penser de la même façon. Il ne faut pas hésiter à venir parler. Et donc, je termine sur ça, sur le fait qu'effectivement, toutes les consultations sont en réel, reçoit les étudiants. Je rappelle également que dans le service de santé universitaire, si on vient comme ça parce qu'on n'est pas bien et qu'on a envie de parler tout de suite à quelqu'un, un professionnel de santé, nous avons 4 infirmières et un infirmier qui reçoivent sans rendez-vous tous les jours de 9h à 17h. et qui vont après, selon le motif de la consultation, pouvoir réorienter sur moi et mes collègues, sur un suivi peut-être voilà, de soutien psychologique. Donc il est possible de venir sans rendez-vous ou d'appeler pour avoir un entretien téléphonique ou en réel avec un infirmier ou une infirmière. Nous, dans le service de santé universitaire, c'est vraiment à la marge sur les consultations par téléphone. Nous ne faisons aucune consultation en visio. On est vraiment dans cette temporalité psychique de pouvoir penser effectivement le temps de l'entretien et qu'on ne va pas se précipiter sur des rendez-vous téléphoniques, sauf dans le cas où c'est vraiment une histoire de confinement ou une voilà qui est liée à la crise sanitaire et au Covid qui va entraîner effectivement une consultation par téléphone qui reste donc à la marge. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je pense surtout, n'hésitez pas à parler aux étudiants Relais Santé qui vont peut-être vous aider et vous réorienter sur les professionnels qui, voilà, pas selon ce qui va se passer dans ce qu'ils vont vous dire. Voilà.
Et du coup, pour nous joindre, nous, les ERS, je rappelle rapidement, donc on est plus actifs sur Instagram. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook. Donc notre logo, c'est un petit poulpe avec marqué ERS dessus. Vous ne pouvez pas nous louper. Alors tout d'un coup, sans espace, c'est ERS de Tours, donc de la ville, tout attaché.
Et alors, par pure curiosité, pourquoi un poulpe ?
Eh bien, en fait, c'est un logo qui a été longuement discuté. Alors, nous, on est de cette année avec Farid, on est des petits nouveaux, entre guillemets. Mais du coup, bah, ça a été adopté, je crois, parce qu'il y a des références à la couleur de l'université. Et également parce que, comme on peut le voir, c'est une petite illustration toute joviale, etc. Donc ça permet de comprendre que la reconnaissance par les pairs, c'est quelque chose d'accessible et de pas effrayant, en fait. C'est un moyen d'aborder la médecine et de mettre en contact avec des professionnels de manière tout à fait dénuée de jugement et simplement.
Et puis, de toute façon, on aurait mis un éléphant, vous aurez dit pourquoi un éléphant. On aurait mis un lion, vous aurez dit pourquoi un lion. Donc, on s'est dit pourquoi pas un poulpe, un animal qui n'est pas trop représenté. Donc, pourquoi pas ?
Peut-être.
Non, mais en tout cas, en espérant que ce logo vous parle, en espérant que la page aussi vous parle, vous verrez, c'est assez coloré, on partage des infos qui sont assez cool, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis je pense qu'Axel a bien fait la publicité. Je pense qu'on est pas mal, j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc rejoignez la page, abonnez-vous, envoyez-nous un message à l'occasion, pourquoi pas. Et puis on se retrouve sur la page Instagram alors.
Voilà, et bien grand merci à nos deux étudiants Relais Santé, Axel et Farid, d'être venus jusqu'à nos studios. Merci aussi à Ghislaine Legouguec, notre troisième invitée, voilà, qui vous a tout dit sur les consultations qu'elle propose au service de santé universitaire. Et comme il est presque midi, chers auditeurs, je vous propose de nous quitter en écoutant une succulente chronique sur la tarte aux cerises. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.
Les bonnes recettes d'aujourd'hui, la tarte aux cerises industrielle. Commençons par la pâte brisée. Je mets la farine sur la planche à pâtisserie. Pour obtenir cette farine, les grains de blé ont été enrobés d'un fongicide. Ils ont reçu 6 traitements de pesticides, un traitement aux hormones et une dose importante d'engrais. Disons 240 kg d'azote, 100 kg de phosphore et 100 kg de potassium à l'hectare. Je fais un puits. J'incorpore une pincée de sel et une cuillère à soupe d'huile. L'huile est extraite par des solvants de type acétone, raffinés à l'acide sulfurique, lavés à chaud, neutralisés à la lessive de soude, décolorés au bioxyde de chlore, désodorisés au chlorure de zinc, colorés au curcumine. J'ajoute le beurre et je mélange. J'étale ma pâte dans un plat et je cuis à feu doux. Pour la crème pâtissière, je fais bouillir le lait en y ajoutant une gousse de vanille. Le lait provient d'un élevage industriel. Les vaches reçoivent dans leur alimentation des antibiotiques F714, des émulsifiants F405, des conservateurs F384, des antioxydants F307 et enfin des éléments appétants, c'est-à-dire qui donnent faim, pour que les vaches puissent manger tout cela. Dans un saladier à part, je travaille le sucre avec 3 jaunes d'œufs. et je réserve le blanc. Les œufs proviennent également d'un élevage industriel où les poules sont nourries avec des granulés contenant des antioxydants, des arômes, des émulsifiants, des conservateurs, des colorants
et toujours des appétants comme ceux des vaches pour qu'elles puissent avaler tout ça.
Elles reçoivent bien entendu des antibiotiques et ne sortent pas à l'air libre puisqu'elles sont enfermées à vie. Comptez 20 poules au mètre carré. Je verse peu à peu le lait bouillant sur les œufs mélangés au sucre. Lorsque j'obtiens une texture onctueuse, je la retire du feu et laisse refroidir la crème pâtissière. Je prends un pot de cerises. Ces cerises ont reçu entre 10 et 40 traitements de pesticides. Elles sont décolorées à l'anhydride sulfureux et recolorées de façon uniforme à l'acide carminique ou à l'érythrosine. Elles sont enduites d'un sucre qui a reçu sa dose d'engrais et de pesticides. Ce sucre est extrait à la chaux et à l'anhydride sulfureux, décoloré, raffiné, azuré au bleu anthraquinonique. On ajoute à ces cerises sans goût un parfum artificiel alimentaire. Acétate d'éthyle, acétyl, méthylcarbinol, caprylate d'isoamyl, caproate d'éthyl, caprate d'éthyl, butyrate de terpényl, aldéhyde benzoïque, aldéhyde pétoluique, vanilline, essence artificielle d'amande amère, de girofle bourbon, de cannelle ceylan, de lie de vin.
Arte Radio.
Une fois la pâte cuite et la crème appliquée en quantité, je dispose les cerises sur le plat.
Au point. Comme.
Bon appétit.